Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Le cardinal Laurent Mossengo, archevêque émérite de Kinshasa, sera inhumé ce mercredi 21 juillet en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cette inhumation est précédée d'une messe présidée par le cardinal Nzapalanga, archevêque de Bangui, en République centrafricaine, en présence de président Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Nous en parlerons avec Alain Irung en début de ce journal. La situation sécuritaire reste préoccupante dans les hauts plateaux du territoire des Fizi au sud Kivu, où des miliciens et leurs alliés continuent à perpétrer des attaques 10 jours après des affrontements meurtriers les ayant opposés à l'armée régulière. Madame Adine Dor Omokoko, secrétaire générale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, sera avec nous avant la fin de ce journal. Elle nous parle de l'atelier de renforcement des capacités des femmes autour d'un nouveau concept, le Gender Hoche, organisé par CAFCO avec l'appui du PNUD. Comme je le disais tout à l'heure dans les titres, le cardinal Laurent Mossengo, archevêque émérite de Kinshasa, sera inhumé ce mercredi 21 juillet en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cette inhumation est précédée d'une messe présidée par le cardinal Nzapalanga, archevêque de Bangui, en République centrafricaine, en présence des présidents Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Et nous recevons dans ce studio Alain Irung qui couvre cette actualité ensemble avec Paul Matendo qui est sur place à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Bonjour Alain.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, sont arrivés à 11h23 heure de Kinshasa à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils ont été reçus par les célébrants et concélébrants de cette messe. Et à 11h30 de Kinshasa toujours, la messe a commencé, Pierrot.
Alain, pouvez-vous nous décrire l'ambiance dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo?
Oui, Pierrot, déjà entre 6h et 7h, lorsque nous sommes passés devant la cathédrale Notre-Dame du Congo, nous avons observé que beaucoup de personnes étaient déjà amassées devant les portes qui étaient encore fermées. En ce moment, un dispositif sécuritaire imposant et remarquable. L'enceinte de la cathédrale est pleine de monde, sans parler de l'intérieur où la messe est en train de se dire. On peut aussi remarquer que beaucoup de banderoles et des affiches sont collées au mur de la cathédrale en hommage au cardinal Laurent Mossengo. Enfin, Pierrot, plusieurs personnalités, tant des institutions que de la société civile, sont présentes à cette messe.
Merci beaucoup Alain Irung. Nous terminons en rappelant que le cardinal Laurent Mossengo sera inhumé dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Poursuivons ce journal au sud Kivu dans les hauts plateaux du territoire des Fizi. 10 jours après, des affrontements meurtriers ayant opposé les troupes de l'armée régulière aux miliciens du groupe Turwaneo dans Minembwe et ses environs, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la zone. Des attaques continuent à se perpétrer par deux groupes armés locaux et milices. Des sources locales affirment que le village Moussika, situé dans le groupement des Bassi Muniaka, sud secteur de Lulenge, a été la cible d'attaques ce mardi des miliciens Turwaneo et alliés. Fiston Ngoma Mayabala.
4 maisons d'habitation ont été incendiées avant la riposte des combattants Maïmaï à Moussika. Ces attaques surviennent 2 jours après d'autres attaques de miliciens Bilozi Bishambuke sur les positions des Turwaneo dans les villages de Kakangara, Muliza et Bigaragara au sud-est de Minembwe. 15 maisons des civils avaient été incendiées dans ces villages, forçant les civils membres de la communauté locale à se déplacer vers les villages de Runundu et Ilundu. D'autres membres des communautés locales en conflit, également touchés par ces affrontements, se sont déplacés vers les villages Lumania et Kwamulima. Des hommes âgés ont été brûlés dans les maisons, des enfants ont été séparés de leurs parents et une centaine de vaches emportées. Les porte-paroles du secteur opérationnel Sokolade au sud du sud Kivu confirment les attaques de Moussika et précisent que ce sont les enfants originaires du milieu qui sont derrière ces actes ignobles. Une réunion d'urgence a été organisée lundi entre les FRDC et les forces onusiennes pour discuter des actions à prendre. Le bourgmestre de la commune rurale a organisé ce même lundi à Minembwe une autre rencontre avec les notables locaux et les représentants des femmes et des jeunes. Minembwe, où les activités commerciales avaient commencé à reprendre timidement malgré la reprise des combats entre groupes armés locaux au sud de Madegou. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Restons au sud Kivu et parlons brièvement de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bukavu. Un homme a été tué cette nuit dans sa maison dans la commune de Bagira. Au même moment, un sous-commissariat de la police d'Ibanda a été attaqué. Les bandits ont emporté deux armes des policiers, des gardes qui sont grièvement blessés. Depuis cette recrudescence des criminalités à Bukavu, la commune de Bagira enregistre sept personnes assassinées dans l'espace de deux semaines. En Mbandaka, la population vit actuellement dans la psychose. C'est à la suite de trois meurtres enregistrés lundi dernier dans différents quartiers de la ville. Conséquence, plusieurs habitants se disent inquiets. Nombreux ont également décidé de limiter leurs mouvements par peur de cette insécurité qui se pérennise. Plus de précisions avec vous, Paul Richard Malengela.
Cette opération qui a commencé en Mitaba en groupement Bachali Kayembe et Kichanga Centre en groupement Bachali Mokoto se poursuit ce mardi à Bouleou.
Voilà, nous allons revenir sur Mbandaka tout à l'heure, mais rendons-nous au Nord Kivu, où le commissariat de la police nationale congolaise de Kichanga vient de mettre la main sur une trentaine de civils enrôlés irrégulièrement au sein de ses rangs. C'est à l'issue d'une opération visant l'harmonisation des effectifs de policiers du commissariat provincial du Nord Kivu, affirment les sources officielles. Et nous faisons le point avec vous, Bernard Denyangi.
Commencé en Mitaba en groupement Bachali Kayembe et Kichanga Centre en groupement Bachali Mokoto, poursuit ce mardi à Bouleoussa, indiquent les sources de la police. Selon ces sources, il a été constaté un enrôlement massif des civils dans les rangs de la police dans la chefferie de Bachali et qui exerçaient illégalement sans avoir à apparaître sur aucun listing officiel. La seule journée de lundi, dans les deux agglomérations, la police a mis la main sur au moins 32 civils, détenant une quarantaine de détenus de policiers. Ces sources ajoutent que ces éléments irréguliers sont soupçonnés comme auteurs de plusieurs tueries des civils, mais aussi d'actes d'intimidation des autorités civiles et autres formes de rançonnement des populations. Ils collaboraient aussi avec d'autres civils pour déstabiliser une grande partie de la chefferie de Bachali. Ces sources signalent que cette opération d'harmonisation des effectifs des policiers est dictée par le commissariat provincial du Nord Kivu, cible toutes les unités de la PNC dans le territoire, y compris les unités spécialisées. Fait notoire à rappeler, dans le territoire de Massissi, de nombreux groupes armés ont chacun ses policiers dotés de tenues similaires à celles de la police nationale. Goma, Bernardin Agui, Radio Kapi.
Revenons cette fois-ci en Mbandaka où je disais tout à l'heure, la population vit actuellement dans la psychose. C'est à la suite de trois meurtres enregistrés lundi dernier dans différents quartiers de la ville. Conséquence, plusieurs habitants se disent inquiets. Nombreux ont également décidé de limiter leur mouvement par peur de cette insécurité qui se pérennise. Plus de précisions, Paul Richard Malengela.
Selon la police, le premier meurtre a eu lieu lundi à Mbandaka 2. La victime était un montant retrouvé mort la nuit au terrain communal de Wangata. Il a été asséné de coups de bâton par des inconnus, lesquels ont tenté d'emporter sa moto-taxi, mais elle a été récupérée par la population venue au secours. Indignés, les autres taximens ont décidé de stopper leur course dès 19h, rendant la circulation difficile dans certains coins de la ville. L'autre meurtre a eu lieu au quartier Air Congo, dans la commune de Mbandaka. C'était un présumé bandit Kuluna qui a été attrapé et l'a par les habitants du quartier. Enfin, la troisième victime a été tuée par balle d'une arme de guerre, encore dans la commune de Wangata. C'était le même lundi vers 17h local, alors qu'elle se trouvait à bord de la voiture d'un député provincial. L'étudiante de troisième graduée à l'ISTEM Mbandaka, grièvement blessée à la jambe gauche, est morte alors d'hémorragie. Le dossier est en cours d'instruction au bureau de l'auditeur militaire de garnison, le colonel John Mambe, qui a appelé la police nationale à mettre à sa disposition le policier présumé assassin, mais aussi à tout mettre en œuvre afin d'éviter une rébellion dans la ville. Mais ce matin, la psychose a encore gagné la ville à la suite des tracts jetés mardi soir dans certains quartiers, appelant à la fermeture des écoles, magasins et marchés suite au contexte politique du moment dans la province. Mbandaka pour Chamalengue, la Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema où le couvre-feu décrété par le gouvernement provincial dans la ville de Kindu vient d'être prolongé à une date indéterminée mais avec une légère modification de l'heure du début et de la fin. Le maire adjoint affirme que les objectifs fixés par les conseils provinciaux de sécurité ne sont pas encore atteints. Docteur Unganda Polimoya Octave précise que ce couvre-feu va désormais commencer à 21h et prendre fin à 5h30. Docteur Unganda Polimoya est au micro de Florence Kizalunga.
Après l'évaluation de ce couvre-feu au niveau du Conseil provincial de sécurité, il a été levé l'option qu'on puisse continuer avec cette même mesure. Mais néanmoins, il y a une petite modification par rapport au débit. Au lieu de 20h, le couvre-feu va commencer à partir de 21h jusqu'à 5h30. Donc, les mesures restent les mêmes et tout le monde doit prendre des dispositions. À partir de 21h, ils doivent être chez lui. Bon, c'est stratégique. Ce couvre-feu, du point de vue sécuritaire, on ne pouvait pas dévaler les tout. Mais néanmoins, par rapport à l'évaluation, nous avions remarqué qu'il y a certains points positifs parce que, bon, je ne saurais pas comment divulguer les résultats, mais néanmoins, après évaluation, on continue d'abord jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif.
Les avocats de Jacky Ndala, coordonnateur de la Ligue de jeunes du parti Ensemble pour la République, annoncent avoir interjeté appel hier soir contre la condamnation de leur client. Celle-ci a écopé de 2 ans de prison à l'issue d'une procédure de flagrance au tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. Selon son conseil, Jacky Ndala a été condamné pour incitation à la désobéissance à une loi qui n'existe, la proposition de loi sur la nationalité. Le procès verbal établi à la nerf l'a été sur base des tortures. Il s'agit d'un procès politique, déclare l'avocat Papi Mbaka, qui est au micro de Jeff Ngoy.
Notre client a été torturé au niveau de la nerf, tant physiquement et moralement. Sa signature a été extorquée. Et c'est sur base de ces PV-là que notre client a été condamné. Et dans ces PV-là, on pose la question à notre client, en quoi la loi Tiani vous dérange? Ah, mais déjà, ça pose un problème. Et dans les faits, on poursuit notre client pour incitation à la désobéissance aux lois. Mais dans les faits, lorsqu'on narre les faits par le ministère public, lorsqu'il fait allusion au PV de l'ANER, ça prouve que notre client est poursuivi pour incitation à la désobéissance à une loi qui s'appelle la loi Tiani. Alors que ce n'est qu'une proposition. Comment on peut poursuivre et condamner une personne qui aurait incité les gens à désobéir à une proposition de loi? Donc pour nous, c'est une condamnation très politique et nous sommes confiants que notre client sera libéré parce que c'est un dossier vide.
Comme leurs collègues d'autres provinces de la RDC, les médecins du Kasaï central radicalisent leur mouvement de grève. Décision prise mardi à Kananga au cours d'une assemblée générale extraordinaire de leurs syndicats, notamment Simeco et Sinamed. En attendant de voir le gouvernement répondre à leurs revendications, ils ont établi un chronogramme des urgences dans les hôpitaux. Un extrait de leur déclaration lui par le docteur Célestin Ngoy du Simeco, Kasaï central. La déclaration est recueillie par François Kadima.
La majorité de médecins du Kasaï central a opté pour la radicalisation de la grève sous la forme polarisation des urgences, avec les chronogrammes ci-après. Du mercredi 21 au jeudi 22 juillet, 2 jours des urgences pour l'hôpital provincial de Kananga. Vendredi 23 juillet, 1 jour des urgences pour l'hôpital général de référence de Lukonga. Samedi 24 juillet, 1 jour des urgences pour l'hôpital Bon Berger de Tchikache. Du dimanche 25 au lundi 26 juillet, 2 jours des urgences pour l'hôpital général Saint-Georges. Mardi 27 juillet, 1 jour des urgences pour l'hôpital général de référence de Ndesha. En conclusion, le bureau intersyndical Simeco et Sinamed invite tous les médecins au strict respect du mot d'ordre, faute de quoi une action disciplinaire sera ouverte à l'endroit de tout contrevenant.
Dans la province du Kwilu, cela fait déjà plus de 2 semaines depuis que les enseignants de la cité de Bulungu dans la province éducationnelle Kwilu 2 sont en grève. Ils réclament leur salaire du mois de juin dernier qu'ils n'ont pas encore touché jusqu'à ce jour. Lesquels salaires jadis payés par la banque Sofibank qui s'est désengagée? Jean-Paul Pengui, secrétaire provincial du syndicat national des enseignants catholiques, Sinecat, dans cette province éducationnelle, plaide auprès du gouverneur des provinces afin que la solution soit trouvée. Les points avec vous, Irène Mboma.
D'après Jean-Paulin Pengui, secrétaire provincial du Sinecat, syndicat national des enseignants catholiques dans la province éducationnelle du Kwilu 2, jusqu'à ce 21 juillet, les enseignants de Bulungu cité n'ont pas encore touché leur salaire du mois de juin. Et ils ne savent pas non plus à quelle banque se rendre pour les retirer. À cause de cet impayement, plusieurs enfants de ces enseignants n'ont pas présenté les épreuves préliminaires de l'examen d'état passé, indique la même source qui rapporte que ces enseignants en colère ont décidé d'arrêter le travail pour réclamer leur salaire. Jean-Paulin Pengui en appelle à l'implication personnelle du gouverneur de la province du Kwilu afin que la situation soit décantée.
Les enseignants de Bulungu cité sont en grève depuis une semaine parce qu'ils n'ont pas touché le salaire du mois de juin. C'est la Sofibank qui leur a payé l'argent et a décliné la responsabilité. On ne sait pas qu'ils seront payés dans quelle banque. Nous sommes venus pour réconforter les enseignants s'ils pouvaient retourner en classe, mais tu vois que le ventre de la famille n'a pas d'oreille. On ne sait pas quel niveau il y a blocage. Nous demandons au gouverneur de la province d'agir si vite pour qu'on paye ces derniers. Sinon, nous sommes à la fin de l'année, les enfants ne vont pas étudier.
Ces enseignants ne jurent que sur leur paiement avant de reprendre le travail, ont-ils dit. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Haïti, Ariel Henry vient d'être nommé Premier ministre. Alors que Haïti est encore en deuil depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, Ariel Henry vient remplacer le Premier ministre intérimaire Claude Joseph. Depuis la mort du président le 7 juillet, il assumait temporairement la direction du pays. En Côte d'Ivoire, c'était jour de fête ce mardi 20 juillet pour les fidèles musulmans. Croyants et croyantes ont célébré l'Aïd El-Kébir, encore appelé la Tabaski, en Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara a profité de l'occasion pour appeler à poursuivre les processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo.
L'invité.
C'est Madame Adine Dor Omokoko, secrétaire générale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. Cette organisation des femmes organise depuis mardi, avec l'appui du PNUD, un atelier de renforcement des capacités des femmes autour d'un nouveau concept, le Gender Osh. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept et comment peut-il aider à booster les compétences des femmes dans différents secteurs de la vie? Madame Adine Dor Omokoko s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Madame Omokoko, bonjour.
Bonjour.
Nous participons à cet atelier sur le renforcement des capacités sur le Gender Wash. Mais c'est quoi avant tout, Madame Gender Wash?
Gender Washing est un nouveau concept de gouvernance qui permet à ce que l'on puisse corriger les irrégularités qui ont déjà été vécues. Et comme nous sommes dans une dynamique de réforme au niveau national, et CAFCO, comme structure nationale, a pensé rentrer dans la droite ligne de ces réformes en redynamisant toutes ces structures de base, parce que nous avons avec nous les femmes de province aussi, pour que nous puissions, dans cette dynamique de gender washing, arriver à nous conformer aux réformes institutionnelles qui sont prônées aujourd'hui par le chef de l'État.
Vous avez parlé, madame, des irrégularités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Quelles sont ces irrégularités?
Bon, les irrégularités se résument d'abord dans le sens de la compréhension des notions du genre. L'on croit que le genre, c'est les femmes. On croit que le genre, c'est une question essentiellement liée aux femmes. Le genre, or, le genre prend en considération tous les aspects de la vie dans la société. Prendre en considération les aspects sexo-spécifiques des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des moins âgés et des plus âgés, des ceux qui sont dans les institutions et ceux qui ne le sont pas, pour arriver à corriger ces inégalités. Donc c'est ça qu'il faudrait entendre par le gender washing. Et pendant longtemps, nous-mêmes dans CAFCO, nous avons mené nos activités de plaidoyer uniquement dans le secteur de la prise de décision, de la participation politique, en laissant en compte tous les autres aspects économiques, sociaux, les dynamiques de nouvelles technologies, de l'environnement, en laissant en compte ces aspects de choses. Et donc, avec cet atelier, nous voulons nous renforcer pour arriver à prendre en compte cela, corriger notre façon d'agir pour l'intérêt de tous.
Vous faites ce travail ici avec l'appui du PNUD.
Exactement.
En quoi consiste justement cet appui et pourquoi le PNUD vous accompagne?
Le PNUD, c'est un partenaire de longue date depuis que CAFCO a été mis sur pied. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le PNUD, dans son département, si je peux dire genre, vient nous apporter, puisque c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle notion, un nouveau concept, nous apporte des éléments à intégrer dans notre façon d'orienter notre travail quotidien.
Votre ancien présidente est devenue ministre de la Justice. Et c'est une joie pour CAFCO et pour tous ses membres. Maintenant, la lutte, je pense qu'elle a abouti.
Non, elle n'a pas encore abouti. C'est vrai que c'est un grand pas et c'est un honneur que notre structure soit reconnue et que notre présidente soit élevée au niveau où elle est, ministre d'État, ministre chargée des questions de la justice et garde des sceaux. C'est un honneur, c'est une façon pour nous de dire que c'est un couronnement de tout le travail que nous sommes en train d'abattre, qui n'est pas resté insensible, qui n'est pas resté dans les tiroirs. C'est une une reconnaissance au fait, travail que les femmes ont abattu au niveau de CAFCO pour qu'elles puissent être élevées. Je ne dirais pas que nous sommes arrivés parce qu'il y a beaucoup à faire.
Oui, les institutions, il y a quand même un progrès qui a été fait de ce côté-là.
Oui.
En ce qui concerne la représentation féminine, pour l'instant, vous avez parlé d'autres aspects économiques, sociaux, et ainsi de suite. Et comment vous allez vous y prendre, madame?
D'abord, pour nous y prendre, il faudrait que nous puissions être renforcés. C'est ça même, entre autres, l'objectif de cet atelier.
Donc, renforcer les capacités.
Nous devons nous renforcer les capacités des femmes. Nous ne pouvons pas plaider pour retrouver les femmes dans les institutions sans que nous puissions leur donner les bagages adéquats pour arriver à briguer.
Et vous avez les moyens?
Ben, nous sommes en partenariat avec les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques. Nous sommes partenaires au gouvernement congolais puisque nous sommes une structure nationale. Et c'est une façon pour moi, par votre biais, de lancer un appel vibrant aux autorités de penser réellement à appuyer les structures nationales. Aussi, nous sommes en partenariat avec les partenaires bi- et multilatéraux, entre autres les institutions des Nations Unies, les ambassades. Donc, nous pouvons, au regard de toute cette panoplie de partenariats, arriver à atteindre nos objectifs qui redynamisent CAFCO, qui réorientent ses actions et qui renforcent les activités de ses membres.
Madame Omokoko, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal coordonné par Élisée Chigota sous la supervision d'Alain Hirong et Alain Goy, la mise en onde. Et nous vous disons merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix.